Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Studio Cef où j'ai le plaisir d'accueillir Julien Pierre qui va nous présenter son projet tout à fait original, un site internet qui s'appelle Annie Gaïdo. J'en dis pas plus. D'abord, bonjour Julien. Qu'est-ce que c'est Annie Gaïdo ? D'abord, ça veut dire quoi ?
Alors, Annie Gaïdo, c'est en fait la contraction de deux choses. Annie pour animaux et Gaïdo qui en fait signifie guide en japonais. Et je trouvais que c'était sympa d'accoler ces deux mots ensemble. L'idée, c'est d'avoir créé un site qui soit un guide pour permettre aux gens d'aller à la rencontre des animaux. Et l'ambition derrière, c'est de proposer aux gens toutes les possibilités de sortie qu'ils auront autour d'eux, c'est-à-dire à la fois évidemment des parcs animaliers que tout le monde connaît, mais également des sorties dans la nature, les fermes pédagogiques, les jardins publics. En fait, dès que vous avez un petit peu d'animaux, que ce soit de la faune locale, des animaux domestiques ou des animaux du monde, l'idée c'est de proposer ces sorties aux gens, c'est-à-dire de les identifier, de leur donner toutes les infos pratiques et évidemment derrière de les intéresser aux animaux qu'ils vont pouvoir rencontrer.
Alors, d'où vous vient cette fameuse idée ?
Moi, je pense que comme beaucoup d'enfants, j'ai eu mes petits livres d'animaux et de dinosaures quand j'étais gamin. Et puis, ça s'est poursuivi au grand dam de mes parents et de mes grands-parents, parce que je pense que j'ai dû à peu près visiter tous les parcs zoologiques et aquariums de France et de Navarre. On citera une visite marquante. J'ai eu la chance d'aller au zoo de Los Angeles quand j'avais 11 ans. Et je pense que ça m'a vraiment, vraiment marqué par rapport à ce que pouvait être déjà un parc zoologique moderne, parce que j'ai 42 ans, donc c'était quand même en 1988. Mais c'était très marquant parce qu'on voyait des animaux en bonne santé. Il y avait déjà des logiques au niveau américain de conservation des espèces. Et puis, ça a terminé de me conditionner dans cette passion. Donc après, ça s'est jamais démenti. J'ai fait toutes ces visites au fil du temps. Je suis aussi un grand fan du coup de sortie dans la nature. Et puis, j'étais un petit peu frustré aussi parce que, notamment en ce qui concerne les sorties nature, je me suis rendu compte que parfois je partais en vacances, mettons en Bretagne ou dans la Brenne, et je découvrais quand je rentrais que j'étais à 10 minutes d'un site extraordinaire et que malheureusement, parce qu'il y avait une multitude d'informations, de brochures, etc., j'étais passé à côté. Et du coup, mon site a aussi cette ambition-là, c'est-à-dire de proposer, dans le cadre de ce que j'appelle les sorties nature, vraiment des circuits. C'est-à-dire que quand vous allez sur le site, vous avez la garantie que le circuit a bien été balisé. Je vous donne aussi, quand j'ai les infos, quand y aller. Parce que quand, par exemple, on aime bien les oiseaux migrateurs et qu'on se trompe de saison, on ne voit pas grand-chose. Voilà, l'idée, c'est de donner les bons moments, les bons tempos et toujours, encore une fois, dans cette optique de privilégier la rencontre avec les animaux.
Alors, donc, cette passion, cet intérêt pour la nature et l'environnement, ça vous vient quand même de loin. Donc, ça a toujours été présent chez vous.
Oui, absolument.
Dites-moi, Julien, est-ce que vous êtes de la région déjà ?
Alors, non, pas du tout. Je suis en fait lorrain d'origine. Et puis, j'ai vécu ensuite 18 ans à Lille, dans le Nord. Je travaillais comme animateur pour le réseau Arthur Lloyd, c'est une entreprise d'immobilier d'entreprise. Donc j'ai fait ça pendant 16-17 ans. J'ai eu la chance de tomber amoureux d'une personne qui s'est installée à Blois, qui a ouvert son salon de thé, Miss Goumar, pour ne pas la citer, pour ne pas faire de promotion. assez vite, j'ai eu envie de la suivre et j'avais sous le coude en plus ce projet qui revenait sans cesse et j'ai décidé de tout concrétiser en même temps, à la fois ma relation amoureuse et mon projet professionnel.
Bon, on dirait que ça vous réussit.
Pour l'instant.
Pour en revenir donc à votre site, Annie Gaïdo, donc, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'on peut y trouver ? Alors, vous avez brossé un tableau général.
Ouais.
J'ai vu, par exemple, qu'il y avait donc, on peut avoir les actualités, et on peut avoir des vidéos.
Absolument.
On peut avoir des liens, des contacts, mais c'est aussi un site participatif et collaboratif.
Absolument.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, l'ambition, c'est de permettre aux gens de s'échanger entre eux, de recommander, par exemple, une sortie sympa qu'ils auraient pu faire en famille avec les enfants. Un mercredi, ils ont fait une sortie qui n'est pas identifiée sur le site. Ils peuvent proposer cette sortie, évidemment, pour qu'elle vienne enrichir la base du site. Et puis, ils peuvent la recommander à leurs proches. Ils peuvent laisser des photos d'animaux, évidemment, sur le site, laisser des avis et, mettre que c'est leur parc préféré. Enfin, l'idée, encore une fois, c'est d'être moderne dans l'approche et collaboratif. On peut évidemment, alors pour l'instant c'est pas encore possible, mais on pourra bientôt laisser également des commentaires sur tout ce qui est fiches animaux. Encore une fois, j'ai pas la science infuse, le monde des animaux c'est un monde absolument extraordinaire, vaste et sans fin, et j'aime bien l'idée que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, et que ce soit des amateurs ou des passionnés. Et l'idée aussi, c'est très important, c'est de rester toujours accessible. Donc, oui, n'importe qui peut venir sur le site et prendre du plaisir à découvrir les animaux et puis laisser des commentaires, proposer des sorties, les recommander à ses proches.
Alors, la conception graphique du site, quand on va sur Annie Gaïdo, mmh, c'est assez joyeux. Mmh. C'est un très beau vert, etc. Voilà, bon, rapport avec la nature. On dirait qu'on est tout de suite sur un site destiné aux enfants. Est-ce que c'est voulu? Quand on va dans Kids, le petit onglet Kids, on voit des petites vidéos instructives sur les animaux de la ferme, mais pas seulement. Enfin, voilà. C'est volontaire, ça.
Oui, absolument. Il y a deux choses. La première, c'est de la volonté d'avoir un discours, des propos qui ne soient pas catastrophistes sur l'état de la biodiversité, parce qu'on sait que c'est une catastrophe, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et l'idée, c'est que je pense que les gens ont l'intelligence de ça, et on essaye d'aller au-delà. C'est-à-dire que le souci, c'est... l'idée en permanence, c'est de parler de ce que font les gens, de leur passion, et le créneau enfantin ludique pour les enfants. Alors, très concrètement, c'est parce que la première personne que je souhaite satisfaire avec ce site, très égoïstement, c'est l'enfant qui est en moi. J'ai cette anecdote, je me baladais au Jardin des Plantes, aux Eaux de Vincennes à Paris, et puis il y avait des trois gamins qui se baladaient, et puis... il y en avait un qui était vraiment qui était au taquet, quoi. Il était il faut aller voir cet animal, et puis voilà. Et en fait, dès le départ, quand on a conçu le site, j'ai pensé à lui et je me suis dit, voilà, c'est les générations futures, ils vont récupérer une planète qui est dans un sale état, mais en même temps il s'agit pas de les culpabiliser, il s'agit de leur donner envie de voir les animaux, de leur apprendre des choses dessus de façon ludique et sympa pour qu'ils les aiment, pour qu'ensuite ils aient envie de les protéger et de s'engager dans pas mal d'actions, parce que les gens font plein de trucs en réalité.
Oui, tout à fait. C'est ce qui... Alors justement, par rapport au retour que vous avez, il existe depuis quand ce site?
Le site a été mis en ligne il y a à peu près 2 mois.
Donc c'est tout neuf.
Oui, c'est
d'accord.
Tout neuf.
Alors, quels sont les premiers retours, les premières observations par vos proches et peut-être aussi sur les... Comme c'est participatif, il y a déjà des gens qui ont proposé des choses?
Oui, tout à fait. Ouais. Les retours sont plutôt bons. Je pense que le côté accessible de la chose plaît aux gens. Les retours sont bons. Les gens trouvent que c'est sympa, que c'est un truc qu'on a envie... C'est fait exprès, d'ailleurs. C'est fait pour qu'on perde son temps dessus, en fait. Voilà, vous cliquez sur... une vidéo, et puis on vous rebalance sur un dossier, enfin bref. Donc les retours sont plutôt bons. Je pense que pour moi, de toute façon, l'enjeu, c'est surtout de commencer à être vraiment un réflexe pour les gens, où on a envie d'aller peut-être une fois par semaine, à partir du printemps, parce que je sais que c'est à ce moment-là que les gens vont commencer vraiment à remettre les chaussures et sortir, pour aller sortir et aller à la rencontre des animaux. Et l'autre chose importante, c'est l'aspect collaboratif. Et là, je suis super content parce que ça s'est déjà concrétisé. Notamment, je pense que c'est avant-hier, j'ai rencontré plusieurs photographes animaliers. C'est un public que j'aime bien. Je pense qu'ils sont toujours plein d'anecdotes à raconter. Et j'ai eu la chance de publier coup sur coup deux articles, dont un avant-hier sur les orangs-outans, avec un monsieur qui s'appelle Patrick Kens, qui est photographe, globe-trotteur, passionné d'animaux, et qui a bien voulu se prêter au jeu de la participation à Annie Gaïdo. Donc en fait, on a ce dossier sur les orangs-outans, où je vous explique voilà ce que c'est. Et puis, vous avez une photo qu'il a réalisée, qui est absolument incroyable, et le récit de cette photo. C'est-à-dire que Concrètement, vous avez un orang-outan. Donc, il part en Indonésie faire des photos. Il a sorti un livre qui s'appelle Regard de primates. J'en profite pour le citer, qui est absolument magnifique. Il est donc en Indonésie et il fait le récit de sa rencontre avec un grand orang-outan complètement impromptu, en fait. C'est-à-dire que lui se balade sur un chemin. Il voit ce grand singe très impressionnant qui est à 30 mètres de lui. Alors, il décide de se mettre en position pour le prendre en photo. Et puis, à ce moment-là, l'orang-outan le regarde fixement et puis commence à avancer vers lui. Et puis, la suite de l'histoire, vous la lirez sur Annie Guido.
Et voilà, c'est très bien. Parfait. Vous êtes déjà un très bon commercial.
Oui, on croise les doigts.
Justement, j'en reviens quand même un petit peu à ce souci de la préservation aussi des animaux et de l'environnement. Donc ça, c'est très important pour vous. C'est votre objectif aussi, transmettre ça.
Oui.
J'ai envie de vous demander une question un petit peu personnelle. Quelle est votre sensation par rapport à ça? Est-ce que vous avez encore de l'espoir, j'ai envie de dire?
Je dirais justement à l'image de Patrick Kens qui parcourt le monde pour photographier des animaux. Je suis optimiste par devoir. Donc oui, je pense que c'est encore possible de faire des choses.
Après, ça fait partie de la motivation de la création de ce site aussi.
Ah oui, absolument. Ouais. Oui. Parce que ce site, ce n'est pas que moi en fait. Il y a mon cousin qui fait des super photos d'animaux. J'ai toute l'équipe technique qui est derrière, qui est absolument passionnée. Enfin, on a la sensation... L'idée, c'est de planter des graines pour les générations futures. Et je pense, je suis absolument persuadé que si on connaît, si on apprend à découvrir tout ce qui est, enfin toute la magie du monde des animaux et par extension de l'environnement dans lequel ils vivent, forcément après on développe une conscience écologique quelle qu'elle soit. Donc ça c'est très important et je pense, enfin c'est la première mission que je donne au site. Mais encore une fois, c'est fait de manière, je veux pas l'afficher partout parce que c'est pas l'objet du truc. Le truc c'est on vient passer un bon moment sur ce site, ça nous donne des idées pour faire des sorties en famille. Et puis, progressivement, on se dit, tiens, c'est quoi cet animal? Comment on le reconnaît? Ah, c'est intéressant. Et puis, voilà. Et puis, ah bah tiens, il y a en plus des mecs qui le prennent en photo et d'autres qui sont engagés dans la préservation. Voilà, l'idée, c'est plutôt de... Voilà, encore une fois, je veux pas... Le discours catastrophiste, il est là, c'est une réalité terrible. Mais il faut justement... il faut en prendre conscience, il faut voir... toutes les actions qui sont déjà menées. Et croyez-moi, il y a vraiment, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que je découvre tous les jours des gens impliqués de diverses manières. Ça peut être à l'autre bout du monde et ça peut être localement aussi.
Et donc, à propos de ces sorties qu'on peut faire, vous ciblez donc tout le territoire national.
Absolument, oui.
Est-ce que vous avez déjà des pistes sur les pays limitrophes, par exemple?
Oui, oui, tout à fait. J'ai commencé à mettre les principaux grands parcs animaliers. Parce que j'aime pas dire zoo, parce que ça commence à être... Enfin, c'est un peu péjoratif et je crois qu'il y a beaucoup de ces établissements qui ont complètement changé de paradigme. Pour le coup, on est je référence pour l'instant les grands parcs, les grands aquariums qu'on peut voir en Espagne, en Belgique, puisque j'étais dans le Nord, donc j'en ai visité quelques-uns aussi. Et l'idée, ça va être de rayonner comme ça, et ensuite les sorties nature. Et encore une fois, voilà, si après je peux voir la participation des utilisateurs, ce serait génial.
Alors, j'imagine qu'il y a des animateurs nature qui vous ont éventuellement proposé.
Pas encore. Pas encore.
Bon, c'est vrai que c'est récent.
Pas encore. J'ai plusieurs contacts très sympathiques avec forcément la Ligue de protection des oiseaux du 41, avec Monsieur Didier Loyer, qui est d'ailleurs mon parrain officiel sur l'accompagnement d'initiative Loire-et-Cher, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Et déjà là, ça m'intéresse de parler de ce que eux font, comment ils sont impliqués, et ils le sont. Des tas de choses qu'ils ont faites au niveau du département, c'est absolument fantastique. D'ailleurs, j'ouvre là-dessus, mais c'est vrai, le département du Loir-et-Cher a plusieurs titres et est vraiment un laboratoire idéal pour moi, en fait.
Alors, j'allais vous poser la question. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le Loir-et-Cher au niveau nature, animaux? Qu'est-ce que vous avez découvert? Et si vous pouvez nous transmettre vos informations, ça nous intéresse.
Oui, alors je suis encore en train de recenser les sites, évidemment, parce que c'est loin d'être complet. Donc, je suis parti, évidemment, de la superstar internationale, le zooparc de Beauval. Et puis ensuite, on déroule, on a l'aquarium de Touraine qui est vraiment... Pareil, un endroit que je recommande parce qu'il y a des poissons... c'est plutôt orienté sur les poissons d'eau douce, mais vous avez des silures, des monstres des mers absolument phénoménaux. On raconte qu'en Hongrie, ils mangent les petites filles. Vous avez, voilà,
les légendes qui vont avec.
Ouais, absolument, ça c'est important aussi. Oui. Donc vous avez l'aquarium de Touraine. Ensuite, j'ai commencé à référencer quelques fermes pédagogiques. Évidemment, le site de Chambord, qui est assez intéressant parce qu'il y a des spectacles équestres. On a aussi la possibilité d'observer des cerfs, ce qu'on ne peut pas forcément faire si facilement, surtout en période de chasse. Et puis, au fur et à mesure, je commence à rayonner de cette manière et j'ai commencé à référencer aussi toute une série de sorties qui ont été mises en place par la LPO 41.
Donc, Ligue de la protection des oiseaux.
Voilà, la Ligue de protection des oiseaux, qui a travaillé avec des agriculteurs et des exploitants, donc qui ne sont pas ennemis, c'est très important. Mmh. Et vous avez une vingtaine de parcours ornithologiques qui sont proposés au départ d'exploitation agricole du 41. J'en ai pour l'instant recensé 3 ou 4, mais j'entends toutes les recenser. Et ça, encore une fois, c'est une super idée de sortie. Donc vous arrivez chez l'exploitant. Évidemment, donc, en général, c'est d'avril à octobre, donc voilà, sur 6 mois. Il vous ouvre ses portes, vous avez des fermes, donc vous pouvez acheter des produits. Moi, je connais particulièrement Cyril Sevin, qui est qui fait du vin. Et, donc,
très bon vin.
Absolument. donc on a pas mal échangé, lui-même passionné d'oiseaux, donc il a cette possibilité-là, c'est-à-dire que vous pouvez venir à l'exploitation, vous pouvez acheter du vin, et ensuite au départ de son exploitation, vous avez un parcours vraiment génial qui a été mis en place par la LPO, avec les espèces que vous pouvez voir, vous avez tout un accompagnement comme ça, et ça je trouve que c'est vraiment génial. Donc ça, je suis en train de les recenser, pour l'instant j'en ai mis quelques-unes. Je pense que, on va dire que dans 2-3 mois, si vous cherchez une sortie ou voir des animaux dans le 41, normalement,
ça devrait être
assez bien fourni.
Voilà, ça devrait être complet.
Évidemment. Alors, en plus, ce qui est particulier, c'est que le département lui-même est absolument extraordinaire en termes de faune. Je ne sais pas si les gens en ont conscience, mais c'est un paradis ici. Venant du Nord, je vous le confirme. À l'exception de l'aspect maritime, vous avez la Loire qui est le dernier grand fleuve sauvage de France. Vous avez des espèces que vous pouvez voir absolument nulle part ailleurs. Vous avez les forêts, évidemment, la Sologne, mais pas seulement. Bref, c'est vraiment un territoire très riche, extraordinaire, et dans lequel, en plus, on sait qu'il y a des actions qui sont menées pour préserver ce territoire. Donc, on n'est pas triste, on se dit que la biodiversité, elle peut encore être sauvée, et on voit toutes ces actions qui sont menées pour préserver la faune.
Oui. Voilà. Ça vous en parlait très bien, en tout cas. Hein. Oui. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur votre équipe ? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, évidemment, vous n'êtes pas tout seul.
Oui.
Alors, est-ce qu'on peut voir un petit peu vos partenaires, vos soutiens, votre équipe, vos amis proches qui vous ont peut-être aidé aussi
absolument. Oui,
dans ce projet ?
Alors, en fait, la genèse du site, c'est une réunion de famille. Et puis, je discute avec mon cousin et je dis, voilà, moi, je suis dans mon boulot. J'ai un peu fait le tour, j'aimerais bien faire un truc sur les animaux, mais je ne sais pas trop quoi faire. Et lui, il me dit, écoute, regarde mes photos. Et là, je tombe sur des photos absolument extraordinaires qui constituent d'ailleurs une bonne partie des photographies d'animaux qu'on peut voir sur le site. Donc, l'idée part de là. Je me dis, tiens, ça peut être intéressant. Je commence à faire un travail de recensement. Il y a évidemment la rencontre, parce que c'était déjà des partenaires avec lesquels je travaillais, avec l'agence web Caillot, qui est donc mon partenaire technique, qui est basé à Roubaix. Mais c'est vraiment c'est des amis. Et du coup, eux aussi passionnés d'animaux, branchés par le projet. Donc on commence à travailler de cette manière-là. Et puis ensuite, sont venus s'agréger. Alors des gens, soit des amis qui, par exemple, revenaient d'un safari, qui m'avaient... safari photo.
Précisons.
Qui m'ont fourni des photos. Ensuite, c'est des collaborations ponctuelles que j'ai pu avoir avec des amis plutôt spécialistes dans telle ou telle chose. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir un stagiaire de l'IUT multimédia de Blois pour mon lancement pendant 2 mois, qui a vraiment fait un super boulot. Pierre-François, je te salue. Qui m'a fait des vidéos et qui m'a en plus donné la dimension, comment rester moderne dans l'approche, c'est-à-dire privilégier les vidéos, l'interactivité, etc. Donc il a vraiment fait un super boulot. Donc c'est le travail de tout ça qui fait que ça fonctionne, parce que je suis pas une start-up, j'ai pas levé des millions d'euros, je suis une start-low, c'est-à-dire c'est artisanal, c'est bio, c'est collaboratif, C'est un peu du bricolage artisanal, mais voilà, il y a de la passion, il y a de l'indépendance aussi. Je pense que c'est peut-être des choses importantes à rappeler.
Alors, à quel niveau de l'indépendance,
c'est-à-dire ? Ah bah, c'est-à-dire que c'est moi je suis l'unique décideur sur tous les aspects du site, et j'espère bien le rester.
Vous n'avez pas de mécénat pour lesquels, par exemple, vous faites de la pub ?
Non. Même si c'est vrai, la dimension économique, je ne dois pas la négliger. En fait, l'idée, c'est derrière toutes ces choses gratuites, évidemment, pour toutes les personnes qui viendront sur le site, pour tous les lieux, parcs, zoos, aquariums qui sont présents sur Anigaido. On est en train de terminer ça, mais dans un ou deux mois, je vais les contacter et ils auront un accès où ils pourront mettre à jour leurs informations. Et l'idée, c'est que si ça leur plaît, ils pourront en mettre plus, sur une formule d'abonnement que je leur expliquerai à ce moment-là. Voilà.
Donc l'idée, c'est ça, c'est un maximum de réseau quand même, pour pouvoir faire en sorte que ce projet vive et soit pérenne, j'imagine.
Après, il y a des
extensions. Vous avez des projets de développement, justement, par rapport à...
Oui, alors il y a évidemment cette partie, on va dire, dédiée aux professionnels qui va voir le jour dans un ou deux mois. On est encore en train de terminer aussi un certain nombre de développements pour, par exemple, avoir une galerie, vous savez, la compilation de toutes les vidéos qu'on trouve sur Internet, mais dédiée aux enfants. Mmh. Comme ça, ils pourront se mater des vidéos rigolotes de pandas qui tombent et de blaireaux qui attaquent des chiens, mais gentiment. Si économiquement le projet décolle, on a un projet d'application pour 2020-2021. On va voir dans quel sens on l'oriente en fonction de ce qu'on peut proposer aux gens. On verra.
Bon, ça démarre plutôt bien.
Oui, pour l'instant, c'est une quête de visibilité. Ouais. Je vous remercie d'ailleurs de m'accueillir aujourd'hui pour pouvoir parler de ce projet.
C'est le genre de projet qui intéresse, je pense, nos auditeurs, puisque c'est pour les enfants, mais pas seulement.
Absolument, hein, oui.
On insiste là-dessus aussi, hein, c'est vraiment très ouvert.
Oui, complètement. Le souci, c'est toujours de... des fois, ça me fait un petit peu mal au cœur quand je me balade dans un parc ou quand j'entends des gens parler d'animaux et puis qui racontent n'importe quoi. Il y a des écriteaux, les zoos font déjà pas mal de boulot pour essayer de donner de l'information. Je pense que mon site, qui fonctionne bien sur téléphone mobile, peut aussi être un guide qui peut enrichir la visite. C'est-à-dire, l'idée, c'est vous avez quelques caractéristiques physiques. Comment on reconnaît un tapir comment on différencie un tapir d'un rhinocéros? Je donne 4-5 caractéristiques physiques. C'est simple, c'est concis. Normalement, c'est fun. Il y a des vidéos pour rendre les choses attrayantes. Et puis, après, on a des dossiers un petit peu plus fouillés où là, on va un peu plus au fond des choses. Et encore une fois, l'idée, c'est toujours deux soucis. C'est quel est l'état de conservation aujourd'hui de l'animal dans la vie sauvage. Par exemple, quand vous dites qu'il reste 4000 rhinocéros noirs, vous prenez conscience de la fragilité de cet animal. Parler de ce qui est fait également, par exemple, et je parle exprès du rhinocéros noir parce qu'il y a un programme qui est mis en place entre des parcs animaliers européens pour réintroduire le rhinocéros noir dans une réserve où on sait qu'il y a de moins en moins de braconnage. Donc on commence à comprendre le lien qu'il va y avoir entre le parc animalier et la vie sauvage. C'est plus deux opposés, c'est plus le cirque, pardonnez-moi, mais c'est plus un cirque, ça devient presque une arche de Noé. Et je pense que cette approche-là, elle est très bonne. Et je me suis perdu, je ne sais plus de quoi parler.
Non, j'avais envie de rebondir justement sur la préservation des animaux, puisque vous avez l'air de bien connaître le sujet. Le braconnage, par exemple, est-ce que c'est la principale cause de la disparition des espèces?
Alors, vous avez effectivement...
Chez les mammifères, en tout cas.
Oui. Effectivement, il y a eu un super documentaire qui est passé sur Arte. Vous allez sur le site, de toute façon, il y a... Oui. J'ai fait un dossier sur les rhinocéros et je parle abondamment de ce reportage qui est absolument saisissant, où l'on découvre qu'en fait, l'Afrique du Sud est pourvoyeuse de cornes de rhinocéros qui servent ensuite, en transitant par le Vietnam, pour se déverser donc sur le marché vietnamien et le marché chinois. Et en fait, la corne de rhinocéros est un signe d'apparat qui marque comment dire, un prestige social au Vietnam. Donc les gens sont très fiers d'en avoir. Donc c'est culturel, c'est culturel. C'est alimenté par ça. Il y a... et c'est absolument atroce, on a découvert une ferme de tigres en République tchèque il y a 2 mois, où en fait c'était un trafic de tigres à la fois privé et alimenté par des cirques, où en fait on tuait les tigres, on en faisait une espèce de soupe pour ne garder que les os, et ensuite ça partait sur les marchés chinois. Bref, oui, le braconnage reste effectivement une des grosses menaces sur la vie sauvage. Alors, encore une fois, regardez ce documentaire sur la corne de rhino, parce que c'est pas juste des méchants braconniers et des gentils qui sauvent les rhinos. C'est toujours beaucoup plus compliqué que ça. Je pense qu'une des clés, d'ailleurs, une des bascules, c'est comment on passe du braconnage à l'écotourisme. On a eu des bonnes nouvelles au niveau du gorille de montagne, qui est un animal assez célèbre, rendu célèbre avec le film Gorille dans la brume, où les populations commencent à nouveau à croître, parce qu'en fait, on a converti les populations locales à l'écotourisme. Et en fait, concrètement, les gens gagnent plus à avoir des gorilles vivants qu'à vouloir les chasser et à avoir des gorilles morts. Voilà. Et je pense que là aussi, on a une des solutions pour la suite.
En tout cas, on voit, disons que il y a quand même des associations, des ONG, des gens qui se mobilisent quand même pour tout ça.
Alors, on va pas être optimiste, mais c'est sûr que voilà, il y a le braconnage et puis il y a peut-être quelque chose qu'on connaît moins aussi qui menace la biodiversité. Et là, bon courage pour savoir comment lutter contre ça. C'est un impact indirect du réchauffement climatique et de la présence humaine qui s'est complètement étalé partout, qui voyage, et du coup, on a le phénomène des espèces invasives qui, lui aussi, pose pas mal de soucis. Vous avez des espèces qui commencent à arriver, qui se déplacent, parfois à cause du climat, parfois à cause de l'homme. Arrive accompagné de l'homme, on parlera du frelon asiatique. Et ces espèces arrivent, et puis, du coup, elles commencent à menacer les équilibres de la biodiversité locale. On voit, par exemple, en Angleterre, ils ont quasiment plus d'écureuils roux. Celui qu'on voit ici dans nos forêts, il a quasiment disparu parce que l'écureuil gris est arrivé des États-Unis et il est plus agressif, il est plus opiniâtre sur les ressources alimentaires et du coup, progressivement, l'écureuil roux en concurrence disparaît. Donc on est dans un phénomène de dynamique, ça a toujours été, hein. Attention, c'est pas, c'est pas que la cause de l'homme, mais c'est un vrai challenge.
Voilà. Non, mais c'est bien qu'il existe des gens comme vous qui nous alertez sur cette problématique, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les médias, mais ce qu'il y a de bien, c'est que sur votre site, en tout cas, en effet, je souligne vraiment l'aspect ludique de la chose. Et quand vous disiez tout à l'heure que c'était vraiment concis et clair, en effet, sur les différents sujets que vous abordez, les différentes thématiques, même si on n'y connaît rien, on prend beaucoup de plaisir à...
En fait, donc j'ai tous ces bouquins sur les animaux, et le travail que je fais en fait consiste à prendre des choses parfois un peu complexes et à les simplifier pour les rendre accessibles aux gens. Si je peux privilégier des termes qu'ils comprennent ou expliquer un peu, voilà, je pense que c'est important de le faire pour pas rester dans un langage trop trop abscon, quoi.
Bien sûr.
Parce que voilà.
Alors, on s'achemine doucement vers la fin de notre entretien. Julien, est-ce que vous pouvez rappeler les coordonnées de votre site ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est un site internet. Vous tapez anigaido.com, anigaido.com. Et puis également, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Anigaido officiel, et sur Instagram, pareil, Anigaido officiel.
Merci beaucoup, Julien. On mettra donc tout ça sur le site de Studio Zef. Et puis, au plaisir.
Merci,
vous revenez quand vous voulez.
Avec plaisir.
À bientôt. Au revoir.